Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique présenté par Alain et Patrick, en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Agnan. Alors tout d'abord, je vais présenter tous nos meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de l'Observatoire pour cette nouvelle année qui démarre, avec évidemment de beaux cieux dégagés pour profiter du ciel
comme
et des
moment.
Étoiles. Voilà, tout à fait. Donc Patrick,
oui.
Aujourd'hui on va quand même parler de quelque chose d'assez intéressant.
Oui.
C'est tout simplement ce qu'on peut voir dans le ciel, j'ai envie de dire à l'œil nu, et puis avec des divers instruments, n'est-ce
oui.
pas ?
Oui, tout à fait. Alors j'espère que de nombreux d'entre vous aura eu un télescope à Noël en cadeau. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel ? Alors, on va détailler ça peut-être en plusieurs parties ou de plusieurs manières. C'est-à-dire ce qu'on peut voir à l'œil nu, parce qu'on peut très bien faire de très belles observations astronomiques à l'œil nu, mais aussi donc ce qu'on peut voir avec un télescope, selon le diamètre ou une lunette, donc voir tout ça. Voilà.
D'accord, commençons alors à l'œil nu. Moi, j'ai pas d'instrument, je fais quoi, j'observe quoi ?
Alors, tout le monde a dû le faire déjà, mais la première des choses qu'on peut observer, évidemment, c'est notre satellite naturel, la Lune. Alors, la Lune à l'œil nu, ça marche bien. Ça marche très très bien déjà avec une paire de jumelles, on l'avait un petit peu évoqué déjà. Alors, ce qui est intéressant avec la Lune, c'est qu'on peut suivre ses phases. C'est-à-dire que tantôt on la voit pleine, tantôt on voit un quartier, un premier le soir, un dernier quartier le matin, une gibbeuse. Donc tout ça, voilà, faut un peu se renseigner, mais on peut suivre en fait l'évolution de la Lune, son déplacement apparent dans le ciel aussi. Ça met en évidence le fait qu'elle tourne autour de la Terre, et on peut le suivre depuis la Terre puisqu'elle va passer comme ça d'une constellation du zodiaque à l'autre. Alors à l'œil nu, on voit surtout les mers, ces espèces de zones un peu grisâtres que l'on peut voir. Mais dès qu'on la regarde avec une paire de jumelles, de suite, on va pouvoir déjà apercevoir les cratères, les principales formations, et c'est déjà très impressionnant.
Oui, et puis surtout que déjà, comme tu le dis, même avec des jumelles, on peut observer son relief, les ombres qu'elle forme sur la surface, etc. Alors, du coup, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qu'on... Alors, sur la Lune, est-ce que, par exemple, un télescope est vraiment indispensable ? Ou qu'est-ce qu'on verrait de mieux ou de plus avec un télescope ?
Après, c'est une question de résolution. C'est-à-dire que plus on va grossir l'image, c'est-à-dire récupérer beaucoup de lumière et grossir l'image, du coup, on aura plus de détails sur les cratères, la forme des cratères. On peut aller jusqu'à voir, même avec un instrument modeste, par exemple, ce qu'on appelle le pic central de certains cratères. Donc du coup, ça devient quand même tout de suite des images assez impressionnantes. Avec un très gros télescope, on a l'impression même d'être en orbite autour de la Lune, quelque part. Donc quand je dis gros télescope, c'est quoi, 200, 300 000 mètres de diamètre. Ce sont des télescopes avant qui étaient difficiles à avoir, mais maintenant on peut se procurer ça et dans son jardin. Alors le gros avantage de la Lune aussi, c'est que même si on est en ville, on peut l'observer. Parce que la Lune n'est pas pénalisée par la pollution lumineuse.
Oui, effectivement, c'est très, très belle remarque.
Oui.
Alors... En dehors de la Lune, tout le monde le sait, il y a des étoiles dans le ciel. Alors, est-ce qu'on peut voir des étoiles à l'œil nu ? Est-ce qu'il y a certaines étoiles qui seraient plus intéressantes à observer que d'autres ? Peux-tu nous en dire plus ?
Oui, alors au niveau des étoiles, à l'œil nu, évidemment, on en voit. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais dans un bon ciel, je crois qu'on arrive à voir jusqu'à 1500 ou 2000 ou peut-être 3000 étoiles, mais à l'œil nu. Alors, les étoiles, quand on les regarde à l'œil nu avec des jumelles ou un télescope, ça reste toujours des points. Ça, il faut se le dire, même avec le plus gros télescope du monde, une étoile reste un point. Alors, c'est pas parce qu'elles sont toutes petites, c'est parce qu'elles sont très très loin. Parce que les étoiles, on le sait, sont beaucoup plus grosses que les planètes, et des étoiles même sont beaucoup beaucoup plus grosses que le Soleil. D'ailleurs, la plupart des étoiles qu'on voit le soir à l'œil nu sont en général plus grosses que le Soleil. Mais bon, elles sont très très loin. Alors, ce qui est intéressant d'observer avec les étoiles, ça sera plutôt, par exemple, la couleur des étoiles. Ou observer des systèmes binaires. C'est-à-dire qu'on voit une étoile qui paraît être toute seule comme ça, puis dès qu'on zoome un peu, hop, on se rend compte que finalement c'est une étoile binaire. On a le cas dans la Grande Ourse, et notamment dans la queue de la casserole, justement, où on a un couple binaire qui est très intéressant à observer.
Oui, effectivement, oui. Et puis, bah, comme tu dis, hein, les étoiles, c'est vrai qu'on peut les observer, comment dire, à l'œil nu. Alors, tu parlais tout à l'heure du nombre d'étoiles. Alors, moi, le chiffre hein, dont je me souviens,
oui.
C'est 6000 étoiles, tout hémisphère confondu, visible
oui,
à l'œil
voilà.
nu, dans un ciel, on va dire, classique.
Oui.
Et en général, hein, sur une soirée, hein, sur une nuit,
oui.
Si vous observez du soir oui, jusqu'au matin,
oui.
eh bien, vous verrez un millier d'étoiles.
Oui, gros. Voilà. Puis bon, alors, la qualité du ciel est super importante, évidemment. Non,
oui,
en plein cœur de Paris, vous verrez beaucoup moins d'étoiles qu'à Cabrières, par
oui,
exemple.
Voilà, exact.
Tout à fait. Quand on parle des étoiles, je reviens sur la Lune, il y a un truc intéressant, c'est qu'on peut observer des occultations, justement. Mm. Ça, c'est quelque chose qui se fait à l'œil nu ou avec des jumelles, quand la Lune bah, décide, par exemple, de passer devant une étoile. Alors, quand c'est une étoile assez brillante, bah, c'est un spectacle qui est assez joli à voir. Ça arrive aussi avec les planètes. On avait observé, nous, il y a quelques années, l'occultation de Jupiter. Alors, Jupiter n'est pas une étoile, évidemment, mais de Jupiter par la Lune. Et c'était vraiment très sympa. C'était à 5h du matin, je me rappelle, on avait dormi à la belle étoile, c'est le cas de le dire, pour pouvoir observer ce phénomène. Voilà. Alors, ce n'est pas non plus tous les jours, hein. Il faut quand même tomber
voilà.
dessus.
Alors, les occultations... Hein, Alors, cette année, là, par exemple, en 2024, je sais que la Lune va occulter à 28 reprises une planète dans l'une ou l'autre des planètes du système
ah, oui.
solaire.
Mmh.
Alors,
et,
évidemment, ce n'est pas 28 occultations que l'on pourra voir depuis l'observatoire d'Anian, hein, c'est sur l'ensemble du globe.
Oui.
Nous, il n'y en aura que quelques-unes hein, qui seront visibles. Mais c'est un phénomène, comme tu dis, tout à fait régulier. Hein,
oui, tout à fait. Alors, autre chose aussi qui est sympathique, je dirais, alors c'est aussi plus rare, mais c'est les éclipses, évidemment, sur
oui,
la Lune.
Tout à fait,
éclipses
oui.
de Lune, ça, c'est un phénomène à l'œil nu qui est. Ça marche très très bien, évidemment, avec une paire de jumelles. C'est encore mieux. Alors, à noter que la Lune. Je conseille quand même de l'observer quand elle n'est pas pleine.
Oui,
voilà.
Effectivement.
Bon,
oui.
à l'œil nu, c'est spectaculaire. C'est vrai, de regarder la pleine lune se lever, c'est intéressant. Mais si on veut l'observer au télescope, ben, du coup, il vaut mieux attendre toujours qu'il y ait une limite jour-nuit, parce que ça permet d'avoir une lumière rasante et de mettre en évidence les reliefs sur la Lune. Sinon, tout a l'air aplati, blanc, trop lumineux. Voilà, au télescope, il vaut mieux attendre ça. Alors, la pleine Lune, hein, en général, ça dure un jour. Puis, voilà, un jour avant et un jour après, bon, voilà, c'est là où c'est le moins intéressant, mais tout le reste du temps, on est bon pour observer la Lune.
Alors, je vais revenir un petit peu sur les étoiles. Et puis, alors, moi, il y a un truc que je n'ai pas compris, parce que des fois, on nous parle de ça. Il y a des grands chiens, des petits chiens,
ah,
il
oui.
y a des lézards, il y a des ours, des aigles, des cygnes. Est-ce
ouais.
que tu peux nous en dire plus là-dessus?
Oui, alors ça, c'est aussi quelque chose qui se fait à l'œil nu. En fait, tu parles des constellations,
voilà,
j'imagine.
Tout à fait.
Donc, les constellations, ben, ce sont des regroupements d'étoiles imaginées donc, par l'homme, hein, par les humains, et parce que ces regroupements en fait n'ont pas vraiment de sens au terme astronomique, parce que ces étoiles sont en réalité très éloignées les unes des autres. C'est une perspective. Mais on a décidé comme ça de rejoindre certaines étoiles dans le ciel pour former les constellations. Alors ça a une histoire hein, dans divers thèmes, si vous voulez, l'astrologie, l'astronomie, mais nous, en astronomie, on s'en sert quand même beaucoup pour se repérer, tout simplement. Voilà.
Voilà, alors effectivement, dans le ciel, elles nous servent, nous, nous autres astronomes, de repères, de jalons, hein, entre
oui.
guillemets, pour repérer nos objets. Alors, pour faire un tout petit peu d'historique, les constellations qui sont plutôt d'origine, on va dire, animale, comme la Grande Ourse, etc.
Oui, ou de sont, héros aussi.
Voilà, ouais. sont plutôt... toutes les constellations voilà, d'origine animale sont plutôt d'origine mésopotamique, hein, Babylone, etc.
Ah oui, oui, oui. Mmh.
Toutes les constellations d'origine mythologique, Orion, Cassiopée, Persée, etc., ont plutôt une origine antique, hein, à la fois grecque et égyptienne dans une certaine mesure. Et puis après, il y a toutes les constellations dites modernes, le sextant, la boussole,
oui.
le burin, etc. Mais ça, c'est plutôt dans l'hémisphère sud.
Oui, au fur et à mesure qu'on a pu s'aventurer dans ces contrées, j'imagine, et elles ont été en fait nommées
voilà.
et décidées beaucoup plus tard dans l'histoire.
Voilà, et du coup, ils ont simplement redessiné dans le ciel bah, ce qu'ils avaient l'habitude de côtoyer au quotidien, et c'est ce qu'ont fait les anciens, mm-hmm. Soit pendant l'Antiquité, soit...
Alors on peut imaginer que les peuplades d'Australie, à l'époque, avait peut-être déjà imaginé des constellations on ne les aurait peut-être pas gardés.
Voilà, oui. Bah, de toute façon, chaque culture avait ses concessions, hein, que ce soit les Aztèques, les Mayas, les Chinois, etc. Il y a eu un très très grand nombre de concessions et de cultures différentes à ce niveau-là.
Oui, bon, alors du coup, revenons à nos observations. Pour finir à l'œil nu, on peut voir aussi les planètes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on voit quand même pas mal de planètes. Alors je dirais que les plus faciles, c'est Vénus, évidemment. Tantôt du soir, tantôt du matin. Je rappelle qu'il ne faut pas la confondre avec l'étoile polaire. On l'appelle l'étoile du berger à tort, mais on sait maintenant que c'est une planète, enfin depuis un petit moment. On a aussi Jupiter, alors on l'a en ce moment, le soir, bien visible.
Oui, j'y reviendrai. Ouais.
Voilà, on a Saturne qu'on observe aussi à l'œil nu, il faut savoir où elle est, mais elle se voit très très bien à l'œil nu. Mars, alors Mars quand elle est là, on la voit aussi à l'œil nu. Mercure, difficile à observer à l'œil nu, parce que toujours, entre parenthèses, un peu proche du Soleil. Et puis alors en ce qui concerne Uranus et Neptune, bon là... apparemment, Uranus serait théoriquement visible, mais bon, moi, oui, j'ai jamais réussi à l'avoir à l'œil nu.
Alors, Uranus, dans un très très bon ciel, bien noir, effectivement, on peut la distinguer à l'œil nu. Bon, par contre, je dirais qu'il faut au moins des jumelles pour pouvoir la repérer, et on va dire un télescope pour pouvoir apprécier pleinement sa couleur bleutée caractéristique. Oui. Et pour Neptune, bah, c'est pareil. Là, par contre, si vous n'avez pas de télescope, c'est quand même très compliqué
à
l'observer. Et alors, pour terminer, bah, on va parler un petit peu de la planète qui n'en est plus une, hein, Pluton.
Ah oui.
Bon, alors par contre, là, elle, en termes d'observation, en tout cas, de manière visuelle, hein, quand on met l'œil à l'oculaire, c'est quasi impossible avec nos moyens d'amateurs.
Oui, ça reste un point parmi les étoiles, donc c'est très difficile à détecter.
Alors, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement, toujours dans les étoiles, hein, on parle de pluie d'étoiles filantes. Alors, elle tombe comment là dehors? Il pleut, qu'est-ce qui va nous arriver ce soir?
Alors, ce soir, je ne sais pas, sûrement pas grand-chose vu la météo. Tu parles donc du phénomène des étoiles filantes. Alors, les étoiles filantes ne sont pas des étoiles, je crois qu'on en a déjà parlé ici, hein, mais ce sont plutôt des poussières, hein, qui viennent finir leur vie dans l'atmosphère qui nous protège. Donc c'est des tout petits grains, hein, on peut comparer ça à des petits grains de riz, des lentilles, des poussières, des fois c'est plus gros. Alors on a deux cas de figure, soit les étoiles filantes dites sporadiques, c'est-à-dire qu'il y a un petit grain qui tombe de temps en temps dans n'importe quelle direction, et puis on a ce qu'on appelle les essaims d'étoiles filantes. Alors du coup, les essaims d'étoiles filantes, en gros, c'est quand la Terre va traverser un nuage de poussière laissé, il y a déjà pas mal de temps, par le passage d'une comète. Alors, on connaît très bien le phénomène des Perséides au mois d'août, mais on en a tout au long de l'année différents essaims. Alors, il y a 4 ou 5 assez célèbres où les étoiles filantes sont bien visibles, mais je crois qu'on en a quasiment une dizaine tout au long de l'année remarquables.
Oui, alors sur les étoiles filantes, on a une trentaine, hein, en tout des dessins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'étoiles filantes, hein, chaque soir, vous pouvez en voir entre 5 à 10 par heure selon la période de l'année. Et dès qu'on dépasse ce chiffre, on parle du coup de pluie d'étoiles filantes. Bon, certains vont être à 10-15, donc c'est pas trop d'intérêt. Et puis là, début janvier, il y avait un des plus importants, les quadrantides.
Oui,
exactement. Et qui était à pas loin de 200 étoiles filantes par heure.
Quand même. Alors, ne pas confondre avec une clamolette laissée par, par un astronaute et qui retombe. Ça ferait une belle étoile filante, par contre, hein, je pense. Hein.
Oui, effectivement. Par contre, moi, j'ai regardé une fois le ciel et j'ai vu quelque chose d'assez intriguant. Il y avait peut-être plusieurs dizaines de points les uns derrière les autres.
Oui.
Alors, qu'est-ce donc que ce phénomène?
Alors, tu serais presque mieux placé que moi pour en parler, mais quand même. Alors, j'allais le dire, hein, on peut aussi observer dans le ciel à l'œil nu ce qu'on appelle les satellites artificiels. L'ISS aussi, la Station Spatiale Internationale, on la voit passer, elle est très très lumineuse. Alors on pourrait l'observer aussi au télescope, l'ISS, mais le problème c'est de la suivre. Mais quand on arrive à la suivre, on arrive à voir une petite structure en H. Mais bon, pour revenir à tous ces points qui se suivent, bah, c'est quand on a un largage de plusieurs satellites. Alors c'est les satellites de la fameuse société de Monsieur Musk.
Voilà. SpaceX, hein, les satellites Starlink.
Alors ils sont envoyés par paquet, en fait, hein. Je crois que c'est une quarantaine ou une cinquantaine.
Oui, ça varie, mais c'est souvent 50 à 60 d'un coup.
Voilà. Bah, du coup, quand ils sortent de la coiffe, bah, du coup, ils sont tous regroupés, ils se mettent à la queue leu-leu, et puis au fur et à mesure des orbites, ils vont chacun gagner leur place et donc se séparer. Donc, on peut observer effectivement de temps en temps une queue leu-leu comme ça de points. C'est assez impressionnant si on n'est pas au courant. Je me rappelle que mon frère m'avait appelé une fois un peu affolé en me disant « j'ai vu un truc dans le ciel, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Ça y est, on est attaqué. » Non, non, pas de problème. C'est juste une mise en orbite de ce style de petits satellites. Ils sont petits d'ailleurs, hein, ces satellites.
Oui, tout à fait. Alors, juste un point, bah, si vous voulez les observer, que ce soit les satellites Starlink ou la Station Spatiale Internationale, vous avez plusieurs sites. Hein. Alors, les sites internet, c'est Events Above, par exemple, .com, hein, qui permet d'avoir les dates de passage en fonction de votre lieu d'observation. Et puis sinon, vous avez des applications maintenant sur les smartphones, notamment ISS Detector, mais vous en avez plein d'autres.
Oui, voilà. Il y a tout ce qu'il faut.
Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Alain et Patrick, en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Aniane. Et aujourd'hui, Patrick, on parle des différents objets qu'on peut voir dans le ciel. Alors, on avait parlé de tout ce qu'on peut voir, entre guillemets, à l'œil nu.
Oui.
Mais il y a aussi ce qu'on appelle les objets du ciel profond. Alors déjà, pourquoi le terme d'objet ? Est-ce que j'ai trouvé un marteau là-haut ?
Non, je suppose que ce n'est pas convention, mais tout ce qu'on peut observer dans le ciel, on appelle ça des objets. Alors, c'est vrai qu'on peut difficilement poser un amas globulaire sur sa table de nuit, mais c'est comme ça. Donc, pour finir avec à l'œil nu, évidemment, on a oublié de parler du soleil, mais il faut éviter justement d'observer le soleil à l'œil nu, mais avec des filtres vraiment spécifiques. Il y a quand même de jolies choses à voir, même sur notre étoile. Je précise que le soleil est la seule étoile dont on peut observer la surface. Mais je le répète bien, attention, il faut des filtres spécifiques, sinon on peut vraiment, vraiment s'abîmer les yeux. Alors, le ciel profond, on va dire que ce sont tous les objets, entre parenthèses, qui vont être en dehors du système solaire, en gros, pour faire simple. Alors du coup, on va pouvoir observer différents styles d'objets. On va les classifier, si c'est des groupes d'étoiles, on parlera d'amas ouverts. Alors ça, c'est ton truc, hein. Je sais que
oui.
T'aimes bien les amas ouverts.
J'adore, oui.
Tu fais beaucoup d'amas ouverts lors des soirées publiques à l'observatoire. On a les amas globulaires, ça c'est moi, j'aime beaucoup les amas globulaires, je les trouve très spectaculaires, on va y revenir. Alors les amas ouverts se voient... Quelques-uns se voient à l'œil nu. Alors, l'objet typique d'amas ouvert, on peut dire que c'est l'amas des Pléiades.
Voilà, l'amas des Pléiades, effectivement. Voilà. Et puis, actuellement, là, surtout en deuxième partie de nuit, vous avez aussi ce qu'on appelle l'amas du pommier ou de la crèche, qui se voit aussi à l'œil nu. Mais là encore, si vous avez des jumelles, c'est très intéressant à observer.
Voilà, et un très bon ciel. Alors, pour les amas globulaires, alors la différence entre un amas ouvert et un amas globulaire, on va le dire quand même. Un amas ouvert, en gros, quand on l'observe, on a l'impression qu'on pourrait compter les étoiles. Un amas globulaire, il y en a tellement que c'est impossible de compter les étoiles. Alors, en fait, un amas ouvert, les étoiles ne vont pas rester ensemble. En gros, c'est un groupe d'étoiles assez jeunes qui sont nées d'un grand nuage. On en reviendra, d'une grande nébuleuse. Et ces étoiles vont chacune faire leur vie de son côté. Dans les amas globulaires, les étoiles restent ensemble depuis très longtemps. Les amas, on pense que les amas globulaires sont âgés de plusieurs milliards d'années. On pourrait comparer ça presque à des micro-galaxies. Donc les étoiles restent ensemble. La densité est énorme. Je dirais qu'un amas ouvert, on est de quelques dizaines à quelques centaines d'étoiles. Alors que dans un amas globulaire, on sera plutôt à 100 000, 200 000, jusqu'à 1 million d'étoiles pour les plus gros.
Voilà, alors petite précision, oui, les amas ouverts, comme tu le disais, c'est souvent quelques dizaines, une centaine pour la majorité d'entre eux. Alors il y a quelques gros amas ouverts qui peuvent monter jusqu'à un gros millier d'étoiles, par exemple l'amas du canard sauvage ou l'amas de Persée. Des objets comme ceci. Et pour les amas globulaires, alors pour bien se rendre compte de la densité d'étoiles, on estime que dans un amas globulaire, au cœur de l'amas, sur une année-lumière de diamètre, on peut avoir une centaine d'étoiles. Ou quelques centaines d'étoiles. Et pour vous donner un ordre de grandeur, une année-lumière, c'est le diamètre de notre système solaire, et il n'y a qu'une étoile.
Et le Soleil, tout à fait. Donc j'imagine que ça doit être assez impressionnant, le ciel, si une planète est en orbite autour d'une de ces étoiles.
Voilà,
est-ce possible d'ailleurs ?
Oui, tout à fait.
On pourrait se poser la question.
Alors aujourd'hui, le ciel est très nébuleux.
Oui.
Et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi des choses très nébuleuses dans le ciel.
Oui, tout à fait. Alors parmi ces objets dits du ciel profond, on peut observer deux types en gros de nébuleuses. Alors on a les nébuleuses diffuses. On en voit une, c'est un bon exemple, on n'y pense pas, mais on en voit une dans le ciel d'été plutôt, c'est la nébuleuse de la Lagune. Elle est vraiment visible à l'œil nu. Alors c'est quoi ces fameuses nébuleuses? Ben, ce sont des grands nuages de gaz et de poussière. Alors on a des nébuleuses diffuses à émission, comme M17, alors émission, c'est-à-dire qu'elle génère de la lumière, et puis des nébuleuses à réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont, s'il y a une étoile pas loin ou dans leur cœur, elles vont refléter la lumière et du coup être visibles. On va avoir aussi des nébuleuses obscures. Alors les nébuleuses obscures, ben justement, elles viennent, elles sont plutôt sombres et elles viendront en premier plan par rapport à une nébuleuse qui sera en fond. Alors comme exemple, on a la fameuse nébuleuse de la tête de cheval, par exemple, qui est une nébuleuse obscure. Voilà. La nébuleuse d'Orion, qui est observable en ce moment, est à la fois à émission et à réflexion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les nébuleuses planétaires. Alors, les nébuleuses planétaires, comme son nom l'indique, n'ont rien à voir avec des planètes. On les appelle planétaires parce qu'elles forment des... Voilà, elles ont une forme un peu arrondie ou ovale qui peuvent rappeler quelque chose de rond comme une planète. Mais en fait, c'est le résultat, entre parenthèses, de l'explosion d'une étoile. Alors ça, pour les voir à l'œil nu, c'est compliqué. Hein. On commence à en discerner aux jumelles, mais il vaut mieux avoir un télescope pour observer ces nébuleuses planétaires parce que leur diamètre apparent est quand même assez petit dans le ciel.
Oui, alors tout ce qui est nébuleuse, effectivement, planétaire, il faut quand même déjà une...
Il faut du matériel.
Voilà, un matériel un petit peu important. Alors dans les nébuleuses dont tu parlais tout à l'heure, je dirais qu'il y a aussi un exemple qui est assez flagrant, mais bon, qui se voit essentiellement en photo, c'est la nébuleuse de l'Iris.
Ah oui.
Et c'est un très bon exemple de nébuleuse par réflexion.
Oui, oui.
Alors les nébuleuses par réflexion ont souvent une couleur très... on va dire bleuté, violacé, alors que les nébuleuses à émission ont plutôt une tendance à être rouge-orangé, principalement. Et surtout, c'est que cette nébuleuse de l'Iris, elle baigne dans un immense nuage de gaz et de poussière, et qui sont des nébuleuses sombres. Hein. Donc il y a
un
là
peu
aussi les deux.
Ouais.
Voilà. Bon, c'est par contre un objet, on va dire, qui se fait essentiellement en photo, hein, plus qu'en
oculaire. Ouais.
Hein,
alors, puisqu'on parle de ça, dans les nébuleuses à réflexion, on a aussi le reste de nébuleuses des Pléiades.
Voilà, tout à
aussi.
Fait.
Aussi, voilà.
Tout
mais les Pléiades, on ne voit que l'amas avec un instrument. Pour voir la nébuleuse, il faut, ça se fait en photo aussi.
Voilà, essentiellement. Ouais. Alors... beaucoup plus loin que notre proche environnement. On vient de parler de tout ce qui est amas, nébuleuses, galaxies, etc. Galaxies, justement, c'est quoi? Alors, est-ce qu'on peut en voir à l'œil nu? Est-ce qu'il faut vraiment de gros télescopes pour les observer?
Oui, alors, les galaxies, c'est, je dirais, ce qu'il y a de plus compliqué à observer en visuel. L'exemple typique d'une galaxie visible à l'œil nu, c'est quand même notre voisine. En tant que galaxie spirale, c'est la fameuse galaxie d'Andromède. Elle est bien visible à l'œil nu, mais il faut un très très bon ciel. D'ailleurs, en général, les galaxies sont très exigeantes en qualité de ciel, même avec un instrument. C'est-à-dire que vous prenez un télescope de 300 mm, vous allez en pleine, vous aurez du mal à voir vraiment autre chose que des petites taches un peu floues, un peu diffuses. Si vous allez en altitude à 1000 ou 2000 mètres avec le même instrument, vous pouvez presque détecter les structures spirales de certaines galaxies, comme par exemple M51, la fameuse galaxie du tourbillon qui est en dessous de la Grande Ourse. Je ne me rappelle plus du nom de la constellation, mais...
La chevelure de Bérénice.
Non. Zut, j'ai oublié le nom. Bon, peu importe, sous la queue de la casserole, voilà. Le tourbillon, voilà, c'est dans les chiens de chasse.
Les
voilà,
chiens de chasse,
ça y est,
voilà,
ça revient. Ça il y en a tellement, hein. Il y en a tellement. Donc voilà, ça c'est typiquement le cas de figure d'une galaxie. La qualité du ciel va faire qu'on verra du détail ou pas. Mais en général, les galaxies, c'est très compliqué. Enfin, c'est difficile à observer, pour moi. Voilà, impossible, mais c'est les objets où on est le plus déçu si on n'a pas l'habitude.
Oui,
parce que c'est très compliqué. Espérer voir la structure spirale d'une galaxie, bon, ben voilà, il faut vraiment un ciel très noir, il faut des très bonnes conditions, et puis un télescope déjà d'un certain diamètre.
Alors, on va parler maintenant un petit peu justement de ce qu'on peut voir ce mois-ci dans le ciel. On va faire une petite revue éphéméride et notamment, tu parlais de la Lune hein, tout à l'heure, qu'on peut voir à l'œil nu. Eh bien, la Lune, elle sera pleine le 25 janvier prochain, hein, donc c'est dans bientôt, c'est dans 10 jours. La nouvelle lune, ce sera le 9 février. Alors, ça sera, je dirais, de cette période-là, hein, aux alentours du 10 février, ça sera la meilleure période pour pouvoir observer les objets du ciel profond. Et puis, bien évidemment, entre les deux, vous aurez le dernier quartier, viendra ensuite le premier quartier qui aura lieu le 18 janvier. Alors, Vénus, on l'a dit, elle est visible à l'œil nu, et là, en ce moment, elle est visible le matin, en dernière partie de nuit. Alors, par contre, il va falloir en profiter très vite, parce qu'elle devient de plus en plus basse, elle se rapproche de plus en plus du Soleil, et accessoirement, au mois de février, elle va passer en dessous de l'écliptique, donc elle sera encore plus basse.
Donc, elle va passer derrière, hein. Il passe derrière le soleil, là, du coup, cette fois-ci.
Ah oui, mais alors là, il y a le temps.
Oui, encore le temps.
Ah oui, il y a vraiment le temps. Par contre, le 7 février, elle sera accompagnée d'un très fin croissant lunaire. Hein, et donc, ça sera une manière aussi de faire une très jolie observation à l'œil nu. Jupiter est visible sur la première moitié de la nuit. Elle reste observable dans de très, très bonnes conditions hein, encore ce mois-ci. Le 18 janvier, bien, ce sera le premier quartier de Lune qui sera à côté de la planète Jupiter. Là aussi, un très joli tableau céleste. Et il en sera de même les 14 et 15 février. Et le 24 janvier, pour ceux qui ont un télescope, eh bien, je vous propose entre 19h37 et 19h48 d'observer la planète Jupiter, puisqu'elle n'aura qu'un seul satellite. Tous les autres seront ou devant ou derrière.
Oui, c'est assez rare.
Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont un petit un instrument, on va dire au moins un télescope. Hein. Alors Saturne, pour ceux qui ont l'habitude de l'observer, eh bien elle sombre très très tôt sous l'horizon maintenant. Alors aujourd'hui elle n'est repérable plus qu'à l'œil nu, elle n'a pas vraiment d'intérêt dans un télescope. Et elle sera en conjonction avec la Lune le 11 février et ce sera un moyen de lui dire au revoir avant qu'elle revienne dans le ciel, mais là,
ciel du matin,
pendant l'été.
Dans quelques mois, oui.
Voilà, pendant le cours de l'été. Alors, il y aura aussi de très jolies observations à faire, et notamment, on n'en a pas parlé, c'est vrai, de ce genre d'objet, mais bon, tu y as fait allusion, c'est les comètes.
Ah oui.
Alors les comètes, eh bien, c'est celles qui donnent naissance aux étoiles filantes. C'est celles qui justement vont laisser des débris dans le système solaire que la Terre va traverser et qui vont donner les fameux essaims d'étoiles filantes dont on parlait tout à l'heure. Alors, deux comètes hein, principalement vont être visibles dans le ciel ce mois-ci. Alors, il y a la comète C2021-S3 Pan-STARRS qui devrait être visible aux jumelles lorsqu'elle va traverser la constellation de Lophiuchus. Autant vous dire que ce sera à faire essentiellement le matin et notamment plutôt début février, comme je le disais tout à l'heure, aux alentours de la nouvelle lune. Pourquoi ? Ben parce que du coup, elle ne sera pas gênante. Elle devra atteindre une magnitude 7, donc c'est juste en dessous de la magnitude limite à l'œil nu. Donc si vous avez un bon ciel, normalement, dans des jumelles, vous devriez pouvoir l'observer traverser la constellation de Lophiuchus, même si sa luminosité maximale arrivera plutôt vers la fin février. Mais du coup, là, pour le coup, la Lune sera trop gênante et empêchera probablement de l'observer même aux jumelles.
Alors juste pour préciser, une comète, quand elle traverse une constellation, comme tu le dis, hein, c'est pas... Il faut être au bon moment, en une heure c'est fait. Hein, non, ça se fait sur plusieurs jours, voire des fois plusieurs jours. Voilà.
Là même, je crois qu'elle va, si je me souviens bien, je crois qu'elle reste quasiment tout le mois dans la constellation de Lophiuchus. Voilà. Donc y a encore, entre guillemets, c'est pas quelque chose que vous verrez filer à toute vitesse. Et sinon, il y a une autre comète qui fait parler d'elle en ce moment. C'est la comète 144P Kushida, qui devrait traverser l'amas des Hyades. Là aussi, un très joli amas ouvert dans la constellation du Taureau. Alors, elle va traverser cet amas-là du 5 au 12 février. Alors, il n'y aura pas de lune.
Ça peut être très chouette. Ouais.
Elle peut être très chouette, sauf que elle devrait être un petit peu moins brillante que Pan-STARRS, dont on a parlé tout à l'heure. Avec une magnitude 9, ça reste observable aux jumelles. Mais par exemple, dans des petits télescopes, ça devrait être déjà très joli. Et surtout, ça pourrait être très joli en photo aussi.
Oui, tout à fait. Alors, les Yades, c'est très très joli. Hein. C'est pas loin des Pléiades. Hein. C'est une formation d'étoiles en forme de pointe de flèche ou de V couché.
Voilà, effectivement. Alors, cette émission, elle touche à sa fin. Hein. Toute chose a une fin. Hein, on a fêté la fin de l'année. Eh bien, on fête la fin de notre émission. Merci d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs. On se retrouvera le lundi 19 février. Alors, on n'a pas encore confirmation du thème, mais on attend confirmation des intervenants. Et sinon, Patrick, je te laisse le mot de la fin.
Bah écoutez, profitez du ciel d'hiver aussi, qui peut être très beau. Il faut bien se couvrir. Il y a de très belles choses à voir à l'œil nu, aux jumelles ou au télescope. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. À bientôt.